Shakespeare, c'est le théâtre que moi je connais. Et dans le théâtre, il y a forcément la présence des acteurs. Je crois que si on ne revient pas à ce qu'étaient les acteurs à l'époque de Shakespeare, on n'arrivera pas à traduire l'ensemble de ce que dit Shakespeare, c'est-à-dire la farce pornographique, qui est le substrat sur laquelle se greffe soit une comédie, soit une tragédie, soit un drame romanesque, soit un drame historique. Mais déjà, si on peut faire comprendre aux spectateurs français d'aujourd'hui que les acteurs montaient sur la scène pour faire une farce obscène, on aura gagné quelque chose.
Ça veut dire qu'il faut toujours garder en tête, Jean-Pierre Richard, lorsqu'on traduit le théâtre de Shakespeare, par exemple, qu'il s'agit de traduire pour la bouche d'un acteur.
Oui, c'est la bouche, c'est le corps, mais c'est aussi l'oreille. Parce que le public de Shakespeare, vous imaginez, il y avait plus de 3000 spectateurs au théâtre de Shakespeare pour assister à ces pièces. Et des gens qui étaient de tous les milieux sociaux, y compris des gens qui connaissaient fort bien le latin. Et le théâtre de Shakespeare part en particulier du sens qu'on peut donner en anglais à des mots qui dérivent du latin et un sens obscène. Je prends un exemple. Le mot « ears ». En anglais, c'est les oreilles, mais ça vient du mot latin « aures ». Et « aures », ça ressemble à « ars », qui veut dire « le cul ». Donc tout ce qui est autour de l'oreille, déjà, dans le théâtre, dans ce théâtre-là, renvoie à l'anatomie, au derrière. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y a ce langage biaisé. Rien n'est droit dans Shakespeare. Tout est biaisé. C'est un peu comme ces tableaux qu'on faisait à l'époque, où si on les regardait frontalement, on voyait un homme, une femme assis sur une pelouse. Rien de scandaleux. Et si on les regarde de biais, si on met l'œil contre le tableau au bord, ben on voit que la femme, en fait, tient le pénis de l'homme, qu'un autre défèque, etc. On appelait ça des anamorphoses. Et le théâtre de Shakespeare, c'est exactement ça à la scène. Donc pour un traducteur, on est toujours pris entre ce qu'on doit faire entendre et que tout le monde entend aujourd'hui encore, et ce que les gens d'alors entendaient et qu'on n'entend plus.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Choisi par vos soins, Jean-Pierre Richard, pour nous emmener vers Shakespeare. Un Shakespeare donc clandestin, ou plutôt un autre Shakespeare que vous mettez à jour mot par mot, hein, parfois, dans un essai bien vert et bien nommé Shakespeare pornographe, qui paraît aux éditions d'Ulm. Donc, hypothèse largement étayée, hein, dont on vient de parler. Il y aurait donc chez Shakespeare et dans l'ensemble de son œuvre, hein, c'est-à-dire au moins dans les 39 pièces, deux théâtres cohabitants, celui dont on connaît la grandeur, dites-vous, et puis un autre tapis dans la langue, hein, qui serait ce théâtre à l'inépuisable obscénité, au point qu'on se demande, à vous lire, hein, si le grand théâtre, c'est-à-dire l'intrigue officielle, n'est pas là pour pouvoir écrire l'autre, celle du dessous.
Je crois que vous avez raison. L'intrigue officielle était l'accroche dont avait besoin la farce pornographique, qui se jouait de toute façon. Parce qu'il s'inscrit, Shakespeare, le théâtre de Shakespeare, dans une tradition. On vient d'entendre Greensleeves. On dit que la chanson a été écrite par Henri VIII. Et en fait, Greensleeves, c'est les manches vertes. Et l'expression donner une cotte verte à une femme, c'était la culbuter sur l'herbe. Donc déjà, vous voyez qu'au niveau de la cour, sous Henri VIII, on avait déjà ce souci. Et c'est la tradition héritée de Boccace, c'est la tradition héritée de Chaucer, celle évidemment de Rabelais. Et moi, je voudrais qu'on perçoive Shakespeare comme on perçoit Rabelais. C'est une sorte de Décameron, le théâtre de Shakespeare, permanent. Alors, prenons un exemple. Je ne sais pas, j'habite Dijon, j'habite La Rochelle, j'habite Paris. On donne Roméo et Juliette. Bon, je m'attends à voir une belle histoire d'amour, une lumière fraîche, quelque chose de pur. Alors, bien sûr, je suis un petit peu interloqué par les premières scènes où il y a des jeux de mots, mais c'est entre valets, c'est les bouffons,
le premier vers même.
Le premier vers même, le prologue. Mais bon, on accepte ça parce que ça vient des gueux, des gens du peuple. Et puis, on arrive à ces magnifiques roucoulades entre les tourtereaux que sont Roméo et Juliette. Et en fait, si je m'en tiens à ces roucoulades-là et à la belle intrigue sentimentale, je manque la moitié du spectacle. Parce que tout du long, y compris dans les scènes tragiques qui se passent au cimetière, ce n'est que pornographie. D'ailleurs, le mot qui est employé par Shakespeare pour le caveau, « vault », vient, si vous voulez, en anglais, comme un décalque du mot « fornix », en latin, qui est cet espace où les femmes de mauvaise vie faisaient leur métier, et qu'on retrouve dans la fornication aujourd'hui en français. Et que pensez-vous du nom Capulet?
Vous allez me le
Capulet,
dire.
Capulet, il ressemble énormément à Copulate. Et quand le chef de la maison des Capulet ouvre le bal et dit aux femmes qui sont présentes et aux filles, y compris la sienne, « Foot it, girls !» En avant, les filles, dansez. Ce qu'on entend, c'est aussi le mot « foutre ». Donc vous voyez que quand il y a une scène qui paraît anodine, banale, eh bien les gens de l'époque, en particulier ces étudiants en droit qui venaient des écoles de Londres et qui connaissaient le latin et le français, savaient interpréter ce que nous, on n'entend plus aujourd'hui. Et mon livre, c'est en fait une sorte de spéléologie, vous l'avez dit, pour rétablir cette écoute.
Mais est-ce qu'on ne finit pas, alors si on se met à votre place, est-ce qu'on ne finit pas par n'entendre plus que ça? Est-ce que, à force justement de procéder comme ça, cette espèce de spéléologie, est-ce que vous n'allez pas au fond chercher systématiquement ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire systématiquement trouver cette ligne de base pornographique sous chaque vers?
C'est une base continue. Mais ça n'empêche pas d'entendre la musique, les mélodies qui sont produites par ailleurs. Je prends l'exemple de la mise en scène d'Henri VIII par Thomas Joly. Alors Thomas Joly a fait un spectacle sur les trois pièces d'Henri VI, y compris le siège d'Orléans par Jeanne d'Arc, etc. Donc il y a une histoire. On suit l'histoire dans ce qu'elle a de plus réel, de plus factuel. Mais en même temps, Thomas Joly, le metteur en scène, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a présenté sur sa scène la farce pornographique. C'est-à-dire qu'il a tenu les deux, en particulier un jeu avec les sièges. Parce que lever le siège, c'est aussi lever le derrière dans Shakespeare. Et lui, il a compris ça. Et dans ses Henri VI, il y a en permanence ce fil pornographique qui était, à l'époque, perçu par le public. Et donc les metteurs en scène d'aujourd'hui, comme lui, s'attachent à voir à la fois l'histoire romanesque, l'histoire de l'Angleterre, mais aussi la strate pornographique, la base continue de toutes les pièces.
Quand est-ce qu'on l'a perdu? Parce qu'au fond, ce que vous nous dites, on n'a plus la jouissance du véritable spectacle tel qu'il était montré à l'époque. Mais j'imagine que c'est aussi le cas pour l'anglais d'aujourd'hui. Ça n'est pas seulement nous, par la traduction, qui avons perdu ce second théâtre, mais de manière générale, ce théâtre-là, celui du dessous, aurait été perdu.
Tout à fait, parce que le latin était une langue connue à l'époque. On écrivait des livres en latin. Et les gens qui venaient assister au spectacle de Shakespeare, en particulier les étudiants des écoles de droit, ils étaient des centaines, des milliers à l'époque, connaissaient le latin et le français, c'était les langues du droit. Et le latin joue un rôle considérable dans le théâtre de Shakespeare, justement pour porter cette pornographie permanente. Donc c'est vrai qu'on l'a perdu aujourd'hui. Et puis il y a eu tout le victorianisme qui a...
Le puritain et le victorien qui
luttaient en permanence contre ça.
Qui ferment le théâtre.
Mais vous savez qu'à la fin des spectacles de Shakespeare, il y avait des gigues. Et les gigues, c'était des spectacles mimés. Et en général, c'était des obscénités totales. Ça durait 20 minutes. Et les acteurs des pièces de Shakespeare jouaient aussi dans ces gigues. C'était souvent l'histoire d'une femme surprise en plein adultère avec son amant. Et on ne comprend pas aujourd'hui que Shakespeare, qui était acteur, qui jouait dans les pièces sérieuses, entre guillemets, participait aussi aux ces gigues. Mais en fait, c'est un continu. C'est-à-dire que la pièce... qu'on connaît aujourd'hui, et la gigue qu'on a perdue parce qu'elle était orale ne faisait qu'un. En plus, il y avait les belles histoires romanesques, historiques, etc. Tragiques, comiques.
Qu'est-ce qui se jouerait au fond entre ces deux textures-là, j'allais dire, c'est-à-dire entre le théâtre de la surface et le théâtre du dessous? Parce qu'on se demande aussi, c'est un peu ce que je vous disais au tout début de l'entretien, on se demande aussi si parfois le texte du dessous n'est pas là aussi pour démolir celui du dessus.
Absolument. Je crois que Shakespeare est un profond cynique. Tolstoï a dit, on ne sait pas ce qu'il pense, il n'avait rien à dire. Mais oui, on ne sait pas ce qu'il pense. Il n'a mis aucune de ses pensées explicitement dans ses pièces. Et il s'est attaché dans toutes ses pièces à détruire quoi ? La cuistrerie, des gens qui se prenaient pour des savants. Il les appelait des hommes livres, bookmen. Mais en fait, dans Bookman, on entend Book. Vous voyez comment il détruit la cuistrerie. Il s'est attaché aussi à détruire, à démolir le pétrarchisme, en particulier à travers Roméo et Juliette, qui est une magnifique machine pornographique. Et il s'est attaché à détruire la pastorale, dans Comme il vous plaira, avec des bergers qui ne disent que des obscénités. Pierre de Touche, le bouffon, qui épouse une femme appelée Audrey parce qu'elle rime avec Baudry, et Baudry, c'est l'obscénité en anglais. Oui. Donc, le théâtre de Shakespeare est une entreprise permanente de démolition des formes, des genres qui sont connus à l'époque.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, parce que quand on vous suit, notamment au début, hein, dans toute votre introduction, on a l'impression que cette lecture de cette espèce de double fond du théâtre de Shakespeare vous est arrivée un petit peu par surprise, hein, comme une sorte d'événement. Alors peut-être à la lecture du livre de Frankie Rubinstein dont vous parlez également, ça c'était au début des années 80, en 84 par là, hein,
donc une chercheuse américaine.
Ce texte américain, ouais. Et vous en parlez réellement comme d'une illumination de cette lecture-là, et je me demandais à quel moment ce double fond vous était apparu, et est-ce que ça voulait dire au fond pour vous que tout était à recommencer, c'est-à-dire pour vous traducteur?
Oui, ce qui m'a stupéfait, c'est le caractère systématique de cette entreprise de démolition par la pornographie. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure que je traduisais, je me suis aperçu que la pornographie s'infiltrait dans tous les genres, les comédies, les tragédies, les drames historiques, les drames romanesques. Et en fait, que c'était cela qu'il fallait faire passer aussi en traduction, au théâtre. Et je dois constater que c'est un échec pour l'essentiel, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui en français, traduire cet art de l'équivoque permanent. Alors, il y a des moments où on y arrive, comme dans les sonnets, par exemple, Jacques Darras l'a fait, et dans les pièces, on y arrive aussi, par moments.
Oui, alors l'un de vos prédécesseurs, hein, que vous citez, s'en sort avec une pirouette en demandant au lecteur, au fond, de le lire en ayant l'esprit le plus mal tourné possible.
Exactement. Voilà. Et alors, certains éditeurs ont des notes pour expliquer tous les jeux de mots, toutes les équivoques. Mais le traducteur se sent très frustré. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un peu mon déversoir.
C'est pour ça qu'il faut le lire. Alors, l'exemple J'imagine n'est pas unique, hein, parce que c'est aussi affaire de contexte, affaire d'époque, affaire de public, de ce que le public attendait aussi à ce moment-là. Hein, vous y revenez longuement. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement des contemporains de Shakespeare, mais il en est un qui a peut-être fait modèle. Hein, c'est le poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Aristophane. Et voici ce que l'helléniste Pierre Judet de la Combe en disait le 29 janvier 2015 au micro de Jean Lebrun dans La Marche de l'Histoire sur France Inter.
C'est pas grossier. Enfin, ça peut l'être parfois. Vous avez au milieu d'un vers construit exactement comme un vers tragique, vous avez je pète ou je chie, etc. Ça peut arriver. Bon. Mais le vocabulaire, disons, strictement sexuel en grec est plutôt pauvre. C'est plutôt dénotatif. On va dire pénis, péos, etc. Alors qu'en français, avec Rabelais, bon, etc., ça s'est multiplié. C'est pas tellement ça. C'est-à-dire que ce sont plutôt des doubles entendres. Bon, par exemple, dans les grenouilles, il y a Euripide qui se vante d'avoir été sur le bateau lors de... Bon, c'est comme ça qu'on disait peut-être d'un homosexuel passif bien connu, Clisthène. Alors, il dit qu'il est monté sur le pont. Alors, monté sur le pont, on voit en grec, c'est sur Clisthène qu'il est monté. Ensuite, il dit qu'il a coulé 12 navires pendant une bataille navale. Et 12, c'est le nombre de techniques érotiques connues. Et donc, c'est pas couler, c'est mettre par le fond avec toutes les allusions. Donc, c'est-à-dire que toutes les phrases, même quand il n'y a pas d'obscénité directe, ce qui arrive dans Aristophane, quasiment tous les vers ont un sens obscène. C'est-à-dire que si on sait l'entendre. Donc, c'est cet écart entre un langage qui semble héroïque, normal, enfin, normal dans la poésie, et ce que ça dit aussi.
Est-ce qu'un tel jeu des équivalences a fait modèle conscient, en tout cas, pour Shakespeare, Jean-Pierre
Richard? Tout à fait, tout à fait. On a du mal à accepter que le théâtre anglais ait les deux pieds dans la farce. Nous, notre référence, c'est Racine. Bon, il est difficile de trouver de l'obscénité dans Racine. On peut en trouver peut-être, mais moi, je n'en ai pas trouvé en permanence, en tout cas. Dans Shakespeare, cela vient tout de suite. Vous prenez le premier vers de Roméo et Juliette. Shakespeare a écrit... deux maisons égales en dignité. On se dit, ben voilà, il faut prendre ça au tragique. Il y a déjà une division avec le deux qui annonce la tragédie, alors que le titre, c'est Roméo et Juliette, c'est l'union. Et si on entend ça comme l'entendait le public de l'époque, ou une grande partie du public de l'époque, eh ben c'est deux braguettes égales en couille. Voilà. C'est un exemple de la double entente permanente. Et Aristophane le faisait aussi. Le théâtre est d'abord héritier des farces du Moyen-Âge, de Chaucer, de Boccace. Et c'est cela qu'on a perdu aujourd'hui. La plupart des mises en scène sont sérieuses. On prend Shakespeare trop au sérieux. Alors je sais que mon livre va déranger les gardiens du temple. Hein. Il est iconoclaste hein, dans ce
sens. Très sérieux, mais par ailleurs. Vous prenez votre objet très au sérieux. Hein,
je crois que chaque analyse que je fais est complètement justifiée par les sous-entendus dérivés du latin, du français. Et Shakespeare était conscient. Quand il fait dans Henri V la leçon de français... Il parle de la robe et la princesse française qui apprend l'anglais dit « Oh là là, la robe, oui, mais ça ressemble, gown, ça ressemble beaucoup au con, au mot con en français. » Quand on lui dit que le cou, c'est neck, ou elle dit « Oh là là, ça ressemble beaucoup au mot nick en français. » Quand on lui dit « Le pied, ça se dit foot, oui, je veux pas rentrer là-dedans parce que ça ressemble beaucoup à foutre. » Donc Shakespeare était parfaitement conscient de ce jeu. Il l'a exploité à longueur de pièces. C'est cela qu'il s'agit de retrouver aujourd'hui, ce théâtre perdu.
Alors, il s'agit de le retrouver et il s'agit moins, au fond, de lister les exemples, hein, parce qu'ils sont infinis, j'imagine, en même permanent et évidemment délibéré. Vous, ce qui vous intéresse, c'est aussi ce que ça vous permet de dire, à proprement parler, du théâtre de Shakespeare, de l'usine même du théâtre de Shakespeare, de la dramaturgie surtout, et puis de la façon de l'extension en fait du verbe par la pornographie à proprement parler. Peut-être déjà une question sur ce que c'est que la pornographie, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de pornographie à propos de Shakespeare, qui au fond semble être davantage une pornographie du verbe hein, qu'une pornographie de la situation.
Exactement, c'est verbal. Je crois que l'essentiel, c'est le mot graphie, c'est de l'écriture.
C'est l'activité l'écriture... sexuelle de, en papier, dites-vous.
Voilà, c'est ça. L'écriture de Shakespeare n'est jamais aussi brillante, aussi inventive que quand elle se fait pornographie. C'est ce que j'ai découvert au fil de ces lectures.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est vrai que vous y revenez assez souvent hein, sur cette hypothèse. Ça, c'est votre lecture à vous hein, qui consiste à dire que Shakespeare est un pornographe hors pair et qu'il est probablement... meilleur encore ou davantage génial encore si tant est que ça le soit possible dans l'exercice de cette ligne de base pornographique.
C'est d'une inventivité inépuisable. C'est-à-dire, je prends l'exemple des joyeuses épouses de Windsor. À un moment donné, Falstaff est confondu par le mari dont il voulait tromper la femme. Donc il est rossé, il est fessé. Mais en fait, il est habillé aussi en femme. Et c'est là qu'on voit comment un mot se déploie en théâtre. Parce que la vieille femme, en latin, c'est anus. Ça se dit anus. Et ben voilà, il va faire de Falstaff un anus et il va se faire rosser. Il se fait habiller en vieille femme, il se fait appeler la mère la fesse, hein, Mistress Pratt en anglais. Donc vous voyez comment le mot anus, qui est la base pornographique de départ, se déploie en théâtre. Et c'est ça qui m'a fasciné.
Ça veut dire qu'au fond, chez Shakespeare, le théâtre vient du mot.
Oui. Le théâtre naît. Il y a une force d'expansion du théâtre. Et ce qui m'a fasciné, c'est pas de réduire le théâtre de Shakespeare à cette permanence du vagin et du pénis, une réduction à l'anatomie. C'est le contraire. C'est-à-dire le déploiement à partir du verbe, en construction dramaturgique. Et on retrouve l'exemple de Falstaff déguisé en vieille femme dans toutes les pièces, hein, sous d'autres formes, évidemment, à partir d'autres mots. Mais c'est la valeur expansive du verbe pornographique en dramaturgie qui m'a intéressé.
Quelle est la valeur, alors, de ce que vous appelez les croustilles ?
Les croustilles, c'est différent, ce sont des trouvailles. C'est-à-dire que, indépendamment de la valeur dramaturgique du verbe shakespearien, il y a ces phrases prêtées souvent à des ingénus d'ailleurs, hommes ou femmes, qui sont là pour faire rire le potache en fait, pour faire rire le public. Je prends un exemple. Il y a un conseiller du roi de Sicile dans le conte d'hiver, très sérieux. Il s'appelle Camillo. Et il dit, mais dans quelle situation suis-je ? En anglais, c'est in what case stand I ? Et le potache, lui, l'entendait, mais dans quel sexe de femme est-ce que je bande ? Évidemment, Camillo, il n'a aucune notion qu'il dit ça, mais le public le savait. Donc c'est ce double jeu, le jeu permanent de Shakespeare avec son public, par-dessus la tête des personnages, très souvent, hommes et femmes, qui est aussi intéressant. Mais ça, c'est plus ponctuel.
Qui est le public ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on ne l'a pas véritablement détaillé, Jean-Pierre Richard. Ce premier public, celui qui était prévenu qu'il fallait tendre l'oreille et celui qui était capable, justement, enfin même celui qui attendait de pouvoir jouer avec ces deux registres de langue.
Le public de Shakespeare était composé de tous les milieux. J'ai dit, il y avait aussi bien des bateliers, parce que les théâtres étaient dans les quartiers malfamés. Ils étaient à l'extérieur de la ville, hors les murs, dans des zones qui étaient pleines de bordels, pleines d'estaminets, des centaines de cabarets. Et c'est ce terreau, dans ce terreau, que le théâtre de Shakespeare est né aussi. Alors on parle souvent de ces sources nobles. On parle de Boccace, on parle d'historiographes qui ont parlé de l'histoire de l'Angleterre. Mais il y a aussi tout l'environnement géographique. Ce sont des quartiers malfamés. C'est là que se passait ce théâtre et c'est de là que venait le public. Mais il y avait aussi, comme je l'ai dit, des aristocrates ou des étudiants, hein, beaucoup d'étudiants qui venaient à ces pièces. Donc ils jouaient, bon, il y a une partie du public qui ne comprenait pas ces équivoques, mais une grande partie qui le comprenait, et ils venaient pour ça. Mais il n'était pas le seul à dire ça. Moi, je me souviens en particulier du premier vers d'une pièce de Marston qui s'appelle « La comtesse insatiable ». Vous imaginez déjà appelée « The Insatiable Countess ». Et le premier vers, c'est « Mais que faisons-nous dans le trou noir de cette comtesse ?» On est dans un château, que faisons-nous dans le trou noir de cette comtesse ? Et c'est dit par quelqu'un qui s'appelle le comte Arsena. Et on retrouve à nouveau le mot « as ». Donc il n'était pas le seul. Et en particulier les premiers vers des pièces, des scènes, des tirades attirent l'oreille, captent l'oreille dans le sens de la pornographie. Donc c'est toute une éducation de l'oreille. Et le public apprenait ce langage-là. Il savait les zones érogènes des pièces de Shakespeare. Tendre l'oreille au début et surtout à la fin.
Quelles sont les zones érogènes alors du théâtre de Shakespeare?
C'est surtout le début des pièces, le début des tirades, le début des scènes, le début des actes et la fin.
Et la fin.
Il y a énormément de pièces qui se terminent sur l'évocation de la vérole, la syphilis.
Jean-Pierre Richard, Jacques Darras, c'est déjà la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la conclure, toujours depuis le salon Livre Paris Porte de Versailles. Entre vous et sans moi, merci au public d'être venu si nombreux et excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Comment réagissez-vous, Jacques Darras, à cette lecture du théâtre?
Je suis comme tout le monde, quoi. Je suis à la fois intéressé. Je connais la société de la Renaissance anglaise qui avait effectivement cette liberté de parole ou une liberté apparente et avec beaucoup de sous-entendus. Mais j'imagine que vous devez avoir du mal. Alors là, vous multipliez les difficultés pour la traduction parce que il faudrait que je lise vos traductions. Mais qu'est-ce qu'en font les metteurs en scène? Alors, vous avez parlé de Thomas Joly, là, tout à l'heure. Mais, comment dire, vous ne pouvez... Il y a un certain seuil à partir duquel vous ne pouvez pas aller au-delà.
Non, à partir du moment où le metteur en scène...
Quand vous mettez en scène.
Quand le metteur en scène a conscience de ce double langage, de la double entente permanente, du jeu des équivoques... Je crois qu'il arrive à faire passer ce que le traducteur n'a pas réussi à faire passer. Et dans la quasi-impossibilité de faire passer, à longueur de pièce. Donc c'est ce jeu entre metteur en scène, traduction et acteur, bien entendu, qui prennent en charge la pornographie, le substrat pornographique, la base continue pornographique du texte. Mais ce qui me désole, c'est de voir des mises en scène qui se contentent de l'histoire romanesque ou... tragique ou comique et qui ne voit pas la destruction de ces genres par la pornographie shakespearienne.
Alors c'était presque une écriture inconsciente ou quoi? Ou c'était véritablement, il était tellement imprégné de sexualité que dans le fond son écriture trahissait constamment son inconscient?
C'est un langage qui lui était devenu naturel. Il n'est pas du tout le seul à son époque à faire ça. Mais je prends la couverture du livre Shakespeare pornographe. Mais on voit un homme et une femme qui joue de la flûte, mais on se dit aussi, bon, c'est une belle représentation particien de la fellation.